Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, bienvenue dans cette émission littéraire dans laquelle nous allons présenter un roman, mais un roman dont les personnages sont liés à l'histoire de France et à l'histoire de l'Institut de France. C'est encore plus extraordinaire. Ce roman s'intitule « Tant de feuilles emportées par les jours ». On le doit à Jean Mauduit, notre collaborateur, qui l'a publié chez Flammarion. « Tant de feuilles », ne vous y trompez pas, ce ne sont pas les feuilles des arbres emportées par le vent. Ce sont des feuilles de papier, des feuilles d'imprimerie, puisqu'il s'agit en réalité de l'histoire d'une grande famille d'imprimeurs, les Didot, qui ont régné pendant 2 siècles au moins sur l'imprimerie française. Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour Hélène.
Et merci de nous avoir produit ce roman qui est tout à fait inouï, parce qu'il est bourré d'informations historique et en même temps avec des personnages auxquels on s'attache. Donc ce sont toutes les qualités du roman. On apprend des choses et on s'attache à l'histoire.
Oui, vous me voyez confus de tant de lauriers. Merci.
Alors en vérité, sous vos deux personnages principaux, c'est-à-dire Firmin Bodin dans le roman et Sébastien Mongeau, ce sont deux personnes qui ont réellement existé. Alors présentez-nous ces deux personnes.
Alors le premier, Sébastien Mongeau, en effet, est un abbé. J'en parle par ordre d'entrée en scène, est un abbé qui est entré dans les ordres pas vraiment de son plein gré. Il appartient à une famille vosgienne de gens bien pensants, dans le bon sens du mot, qui ont voulu lui faire embrasser la prêtrise. Il n'en avait pas vraiment envie, mais il s'est laissé faire. Il est devenu curé d'une petite paroisse située dans les Vosges, qui s'appelle Belmont, à, disons, à peu près à égale distance de Gérardmer et d'Épinal et de Remiremont.
Au cœur des Vosges.
Au cœur des Vosges.
Et là, on est en 1700, alors on va déjà situer, on est 1791.
Oui, hein, l'action commence en 1791.
Au moment de la Révolution.
Au moment de la Révolution, au moment de la Révolution, on prend une tournure forte, pour ne pas dire davantage, et où notamment vient de paraître l'obligation pour les prêtres de prêter serment à la Constitution.
Où on est un prêtre constitutionnel, où on ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il choisit, lui ?
Alors, il choisit d'être un prêtre constitutionnel.
Provisoirement ?
Provisoirement, il est enthousiasmé par la Révolution.
Il y croit ?
Oui.
Il croit que ça va changer la vie ?
Il est porté par l'indignation qui le secoue depuis toujours devant les injustices, ce qu'il estime telles, de l'Ancien Régime, devant les privilèges exorbitants, devant le fait qu'un certain nombre de paysans, par exemple, sont condamnés l'été quand les grenouilles coassent la nuit, à battre les étangs pour faire taire les dites chanteuses, par le fait que l'abbesse d'une abbaye proche de sa paroisse prélève un impôt important sur les paysans, etc., etc. Il ne supporte pas ça. Donc il va de bonne foi s'emballer pour la Révolution et transmettre son enthousiasme à ses paroissiens.
Et puis même il va représenter son département.
Oui, comme il a une certaine aura, le don de la parole, il va être choisi pour représenter son département en tant qu'aumônier des députés à la législative. Il va donc arriver à Paris, et là, il fera la connaissance tout à fait fortuite d'une jeune fille qui apparaît dans sa vie d'une façon un petit peu, comment dirais-je, frauduleuse, dans la mesure où il la trouve dormant dans un grand lit clos, qui est celui de la chambre dans l'hôtel qu'il a loué. Cette jeune fille est en fait une aristocrate en fuite, dont les parents sont morts en 92. Cette fois, nous avons sauté une année. Et il va l'épouser. Naturellement, ce sera défroqué. Il l'épousera. Il l'épousera religieusement, d'ailleurs, ce qui prouve qu'il n'est pas en révolte totale contre l'Église. Et leur union sera même bénie par l'évêque constitutionnel du diocèse où il habite. Ça, c'est mon premier personnage que nous retrouverons ensuite. Personnage extraordinaire, vous allez le voir.
Alors celui-là, c'était Sébastien, je redis, Mongeau. Et l'autre s'appelle Firmin Bodin.
Firmin Bodin, en réalité, Firmin Didot, vous comprendrez que j'ai fait
oui, j'ai entendu,
une alternance entre les sonorités du nom de l'un et les sonorités du nom de l'autre, Dido, etc. Firmin Dido, donc le vrai nom, c'est Firmin Dido, est l'héritier d'une famille d'imprimeurs qui est arrivée en France, venant de Lorraine, là encore, vers la fin du XVIIe siècle. C'était d'abord une dame Dido, qui s'est établie libraire pas loin d'ici, d'ailleurs, dans ce quartier où nous sommes, le quartier de l'Institut. Elle a eu des enfants, qui ont eu des enfants, et il s'est trouvé que ces Dido étaient doués d'une inventivité, d'une créativité extraordinaire. D'abord, ils se sont mis à graver, à composer, à éditer. Ils sont devenus à la fois libraires, imprimeurs, compositeurs. Et ils ont, au miracle, inventé des caractères d'une pureté sans égale, dont l'un, le Dido, bien connu de tous ceux qui, comme moi, ont eu à travailler au marbre, est resté jusqu'à, il y a très peu de temps, jusqu'à l'apparition de l'informatique, le caractère.
Le plus élégant,
le plus élégant,
lisible.
Le plus recherché, voilà. Celui qui était une espèce d'archétype de bon goût, de grâce. C'est ce caractère d'ailleurs qui vaudra au Dido d'être choisi comme imprimeur des assignats.
Voilà, ils auront imprimé les assignats.
Et Firmin Dido est le personnage central de cette famille. Ce n'est pas forcément le plus créatif, le plus talentueux, c'est la personnalité la plus forte. Et il va être en fait le patriarche qui, jusqu'en 1845, date de sa mort dans ces années-là, va vraiment régner sur sa famille, sur l'imprimerie française, même sur l'imprimerie internationale.
Alors l'Académie ne s'y trompera pas, puisque Firmin Dido a véritablement été élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1790 comme membre libre, et il a été l'imprimeur officiel de l'Institut, qui, rappelons-le, a été lui créé en 1795. Alors dans votre roman, Jean Mauduit, vous en parlez, alors je vais lire ce tout petit passage. La famille attend chez un notaire qu'on lui dévoile un héritage. Et le notaire se fait attendre. Alors, nous nous en sommes déjà aperçus qu'il était en retard, dit Firmin Bodin sur le ton de la contrariété. C'est bien fâcheux, j'ai rendez-vous à l'Institut, à midi. Bah, ces messieurs t'attendront pour une fois, s'exclama Lucille, sa femme, à qui les années n'avaient rien enlevé de sa spontanéité. Ils t'ont assez fait droguer dans leurs antichambres, tu te donnes suffisamment de mal pour imprimer leur fatras de mémoire. L'édition des mémoires d'histoire et de littérature fait partie de mes engagements, dit Firmin Dido. J'ai été désigné en séance plénière comme imprimeur officiel de l'Institut. Cela me donne quelques obligations. Donc voilà, celui-ci, on sait qui il est, personnage aussi extraordinaire que le précédent.
D'ailleurs, les Dido vont rester imprimeur officiel de l'Institut jusqu'au début du XXe siècle, si j'ai bonne souvenance.
Oui, donc ils vont couvrir...
Beaucoup de mémoires sorties de cette illustre maison ont été imprimées par leurs soins. Et je m'hâte de dire que les imprimeries Dido existent encore.
Bien sûr.
Elles ne règnent peut-être plus de façon aussi puissante sur le monde du papier, dans la mesure où le monde du papier lui-même est un petit peu en déshérence. Mais par une coquetterie à laquelle j'espère que tous mes lecteurs seront sensibles, c'est chez Dido, et j'ai tenu à ce qu'il en soit ainsi, qu'a été imprimé ce roman.
Voilà, et au Ménil-sur-l'Estrée, qui est justement un endroit dans l'Eure, je crois, où ils avaient installé leur imprimerie. Alors là, il y a beaucoup de scènes de votre roman se passent d'ailleurs dans cette usine.
Une usine vraiment révolutionnaire pour l'époque. Ils n'ont jamais cessé d'être en avance. Alors, au préalable, ils ont été évidemment imprimeurs à Paris, je l'ai dit, sous la Révolution, imprimeurs des assignats, et ce n'était pas une mission de tout repos, parce qu'il y avait des fraudes, parce que la Convention, entre-temps on était passé à la Convention, était extrêmement soupçonneuse, et qu'elle déléguait mission sur mission pour surveiller, contrôler. Un des Dido, d'ailleurs, a été embastillé, et il n'a dû son salut qu'à la protection du fameux peintre David, qui a été le grand ordonnateur des fêtes de la Révolution avant de devenir le peintre officiel de Napoléon Ier. Donc nous sommes vraiment dans l'histoire, et revenons à notre curé, Sébastien.
Sébastien, lui.
Sébastien, quant à lui, profite de ses séjours à Paris, séjours obligatoires, puisqu'il est l'aumônier de ces messieurs les députés, pour faire la connaissance de la Convention, des assemblées. Il vit ce qu'est la violence de l'existence dans ces années 92-93, où la Révolution s'emballe, où elle trempe ses mains dans le sang, et où tout le monde vit sous le régime de la terreur, et en particulier... Et là, aussi bien Sébastien que les Dido, et les Dido encore plus que Sébastien, vont vivre cette terreur. et notamment les journées de septembre au cours desquelles des centaines de ci-devants et de prêtres ont été exécutés sans autre procès.
Alors effectivement, on croise toutes les convulsions d'une époque qui s'étale. Alors on a compté sur 65 ans, donc ça commence à la Révolution et à la Convention, puis la Terreur en effet, puis l'Empire, puis la Restauration, puis les barricades, la Révolution de 1830, enfin on arrive jusqu'en 1856. Donc on couvre vraiment très largement une époque. Et alors, votre roman, avec ces deux personnages principaux, mais surtout leurs familles, leurs enfants, leurs frères et sœurs, enfin, ce sont des familles assez importantes, ben, ils doivent survivre dans cette mouvance, s'adapter, ne pas se renier, c'est difficile,
c'est
dangereux.
C'est dangereux.
Voilà.
Et Sébastien Botin, entre autres, en donnant un exemple, il est devenu secrétaire général de la préfecture de Lille, ce qu'en général on ne sait pas. Comme tel, il a donné satisfaction à l'Empire, à l'empereur Napoléon, qui est venu rendre visite à la préfecture de Lille deux fois au cours de son règne. Et le dit Sébastien Botin a pu se livrer à ce qui est la passion de sa vie, qu'il avait déjà commencé à satisfaire précédemment, c'est-à-dire recueillir des statistiques et les publier.
C'est le premier statisticien. Il note tout.
Oui, il
note toutes les adresses de tous les métiers possibles et imaginables.
Absolument. Et il le fait à l'échelle du département du Nord, entre-temps devenu le département du Nord, et tous les ans paraît un annuaire.
Un almanach.
Il édite toute sa responsabilité. Et puis voilà qu'arrivent les 100 jours. Entre-temps, Botin a été décoré de la Légion d'honneur par le roi Louis XVIII. Donc la logique voudrait qu'il se convertisse à la royauté rétablie sur le trône. Pas du tout, il reste fidèle à l'empereur. Résultat,
Après les 100 jours, ça va aller mal.
Et il va être accusé, menacé et finalement exilé, un exil à Bruxelles. Bon, il n'y a plus terrible. Il y restera tout de même quelques années et puis il revient en France. Et comme il lui faut bien vivre, il prend la relève d'un almanach édité par un certain Latina, en deux mots, T-Y-2-N-A, qui est justement la récapitulation des faits et événements de chaque année successive. Et lui va en faire un extraordinaire ouvrage, Le Botin.
Qui va devenir Le Botin.
Un ouvrage éponyme qui va devenir Le Botin. Il va se tuer à la tâche parce qu'il est seul, il a son fils. Bon, il a deux filles, mais il n'est pas très aidé. Il peut payer très mal ses rabatteurs qui vont, je ne sais pas si on se rend compte du travail, d'aller chaque année contrôler toutes les adresses à travers la France pour savoir qui fait quoi, le nom des commerces, le nom des produits.
Je crois qu'on ne peut plus avoir l'idée avec Internet aujourd'hui.
Ah, on ne peut plus. C'est Internet chaque année.
C'était une énorme collation d'informations.
Absolument. C'est Google, par écrit, chaque année. Et il y a tout, surtout. Il y a la composition des conseils généraux, des municipalités, il y a les adresses des hôtels, il y a les adresses des hôpitaux, il y a les adresses des médecins, des chirurgiens, des rétameurs, que sais-je. Les plus petits produits, les plus petits artisans sont recensés. C'est fantastique. Simplement, Botin va s'épuiser, va épuiser ses fonds, et juste avant sa mort, le Botin sera racheté par qui ? Ben, par les Didot, bien sûr. Et ça donnera naissance à une société Didot-Botin, qui existe encore de nos jours, et dont je retrace l'histoire, cette fois sur le thème de la pure information, en fin de volume, en quelques pages, pour dire ce qu'elle est devenue. Pour l'instant, ça n'est plus qu'une marque, une grande marque, gérée par un personnage assez extraordinaire, du nom de Vincent Hollard, qui se trouve être le président du musée de la Légion d'honneur, et qui a tenu à conserver cette marque avec l'idée, il est banquier de son métier, de la poser sur des produits ou des services. Pour l'instant, la marque Didot Botin est libre, mais on peut penser qu'elle revivra accrochée à de grands produits ou de grands services. Voilà l'histoire. Naturellement, c'est aussi traversé de problèmes amoureux. J'ai pris un plaisir particulier à suivre dans les rues de Paris les révolutionnaires de 1830. Que vous dire ? En effet, c'est un
boulot. Que dire ? C'est un livre, effectivement, où on se promène dans l'histoire, évidemment avec une période qui est en général, sauf la période de l'Empire, un peu calme, mais encore. Mais c'est une période qui est un peu tragique et que forcément les personnages et leurs familles vivent de manière tragique et dangereuse. Mais en tout cas, c'est un vrai roman, donc on ne saurait que le conseiller à nos auditeurs. C'est un vrai roman avec beaucoup de remarques profondes aussi sur justement le fait que la mort peut être là demain matin, Le fait qu'on a perdu des êtres chers, le fait aussi qu'on vit avec le danger.
Que la vie n'en prend que davantage de prix, de sens, de saveur, de force.
Oui. Et en plus, ces éditeurs, imprimeurs, graveurs, ils ont une haute idée de leur métier. C'est aussi une période où, en plus de la période historique, c'est aussi la période de l'explosion des journaux. À ces moments-là, donc on voit beaucoup de journaux et de grands propriétaires de journaux dont vous nous parlez dans ce roman.
Oui, parce que Bottin a l'occasion, chaque année, lorsque paraît son annuaire, il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de la promotion, il va le présenter à toutes les rédactions de France et de Navarre, en tout cas les grands journaux, comme le Constitutionnel par exemple, et il rencontre des personnages clés de cette époque. Et donc
Thiers, par exemple, qui était le directeur du National.
Tout à fait. Et qui a été pour beaucoup dans la Révolution de 1830, avant d'en cueillir les fruits. Et à travers ça, on a une idée rapide du combat de la presse pour la liberté d'écrire et d'imprimer.
Si vous voulez bien, Jean Mauduit, on va terminer cette émission en lisant, si vous voulez bien lire. Moi, je vous propose de lire dans la page 172, justement,
ça,
et le début 173. Oui.
D'accord. Firmin, avec sa lourde tête auréolée d'une abondance de cheveux châtains que l'âge avait à peine touché, son jabot de dentelle, son habit bien coupé, l'air de sérénité bienveillante dont son visage était empreint, s'était donné toutes les apparences de l'homme éminent qu'il était devenu. N'était-il pas, avec Pierre son aîné, l'inventeur de la stéréotypie qui marquait une date dans l'histoire de l'imprimerie et plus encore de la culture? Ce procédé qui consistait à fixer des caractères mobiles en blocs de plomb montés sur des planchettes permettait d'établir définitivement les textes, de les conserver et de les réimprimer autant de fois que nécessaire, en les mettant à l'abri des aléas de mise en page et de remaniement qui avaient si longtemps pesé sur les compositions en caractères mobiles. Résultat, une énorme économie de temps, de matériel et de main-d'œuvre qui, en 1798, avait rendu possible l'édition de l'œuvre complète de Virgile au prix incroyable de 15 sous. À présent, leurs éditions stéréotypes comportaient près de 300 titres et le Virgile était proposé en 4 qualités de papier différentes, ordinaire, fin, vélin et grand vélin, vendus de 1 franc à 3 francs 60. Les deux frères y avaient gagné d'arrondir leur fortune déjà considérable et de recevoir des récompenses officielles. Le premier consul avait autorisé Pierre a installé ses presses au Louvre, dans l'ancien local de l'imprimerie royale, et Firmin avait reçu le titre d'imprimeur officiel de l'Institut. Il envisageait de se présenter à l'Académie française, fort de ses œuvres personnelles, car il tâtait de la littérature. C'était lui qui avait traduit en vers tout un volume de poésie ancienne, les bucoliques de Virgile, des idylles de Théocrite, de Bion et de Moschus. Pierre était considéré comme un des meilleurs graveurs et imprimeurs du monde. Le citoyen Camus, dans le rapport qu'il avait établi pour le compte de l'Institut national en 1797, n'hésitait pas à écrire « Le Virgile est, à l'exception de la lettre O, d'un caractère plus pur que tout ce que nous avons vu ». Pourtant, c'était Firmin, son cadet, qui attirait tous les regards. Il était ce graveur inspiré qui avait transformé toute la typographie de son temps. Ce maître, dont les autres imprimeurs se disputaient à prix d'or les stéréotypes de Racine, de Molière, de Voltaire. Ce bibliophile averti, possesseur de plus de 1000 éditions rares de l'Antiquité et de l'âge classique, qui s'était fait le conservateur des chefs-d'œuvre d'autrefois, cet érudit, ce chercheur, toujours en quête de nouveaux horizons. Il avait réussi à graver les Anglaises, des lettres tout en délié, particulièrement difficiles à reproduire. Actuellement, il étudiait le projet d'une édition en langue portugaise des Lusiades de Louise de Camoens, à laquelle il avait intéressé l'ambassadeur Maria de Souza Botello. Bref, il était sans conteste le personnage central de la famille, le chef des Bodin en somme.
Le chef des Didot et aussi la vie de Sébastien Bodin. Voilà tout ce que vous trouverez dans le roman de Jean Mauduit. Tant de feuilles emportées par les jours, c'est un roman publié aux éditions Flammarion. Merci et Jean Mauduit, j'espère que nous vous recevrons pour un autre roman.
Oui, patience.
Une autre fois. Patience, patience.
Vous savez, je suis un tailleur de pierre, alors il me faut du temps.
Bon, très bien. Merci à vous d'être venu jusqu'à notre studio et à bientôt pour une autre émission.
À bientôt.